Bonjour et bienvenue dans ce podcast de développement de soi. Je suis Romain Bamaison, coach multi-outils et formateur en entreprise. Ma mission est de vous accompagner vers l'harmonie dans vos différentes sphères de vie, en mettant l'introspection au service de l'action, tant dans la sphère personnelle que professionnelle. Avec ces épisodes de podcast et méditations guidées, je vous invite à partir en voyage à l'intérieur de vous, à vous offrir un instant de douceur, de contemplation, de réflexion pour soi, pour explorer vos phénomènes, aller au-delà de vos barrières et révéler vos ressources cachées, oubliées ou sous-estimées. Vous pouvez retrouver mes accompagnements en développement personnel et professionnel sur mon site romainbamaison.fr. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dev de soi. Alors aujourd'hui, on va parler de l'interdépendance du corps, du mental et de l'émotionnel. Alors c'est un sujet dont je vous ai déjà beaucoup parlé dans les précédents épisodes, sans jamais en faire un épisode à part entière. Et je me suis dit que ça serait intéressant de parler que de ça et de cette interdépendance. Dans une semaine, au moment où sort ce podcast, il y a le programme de sophrologie en ligne, Sophro-Soi, qui sortira le 1er avril 2024. Et justement, j'en parle parce qu'en fait, dans la sophrologie, on travaille sur cet équilibre, ce dialogue, cette interdépendance entre le corps, le mental et les émotions. Je pense que je ferai un épisode sur ce que c'est que la sophrologie pour en parler plus en détail, mais en gros, dans la sophrologie, il y a une première partie de séance où il y a des exercices en mouvement synchronisés à la respiration et à une intention. Donc le mouvement va travailler sur le corps, la respiration aussi, et l'intention va travailler via le mental sur l'émotionnel, la symbolique, l'intention tout simplement. Et puis en deuxième partie de séance de sophrologie, on a ce qu'on appelle les sophronisations, et ça c'est des méditations guidées en fait, comme je vous fais moi. Sauf qu'elles sont codifiées, il en existe 25, et elles ont, un peu comme en hypnose, des objectifs thérapeutiques, soit pour déprogrammer des choses qui nous rendent pas service, qui sont pas souhaitables, soit pour programmer, au contraire, des habitudes vertueuses, des nouveaux comportements, un nouveau rapport au monde. Donc voilà, tout simplement pour vous dire que la sophrologie est vraiment une des méthodes qui travaille sur cette interdépendance du corps, des émotions et du mental. Maintenant, intéressons-nous à cela. Alors, c'est vraiment passionnant quand on se rend compte de cette interdépendance, parce qu'on se rend compte en fait qu'on a déjà un pouvoir d'action. On peut sortir du fait de subir ses sensations, de subir ses pensées, de subir ses émotions. Dans cette démarche-là de prise de conscience de l'interdépendance, de l'interconnexion, de la cause à effet entre ce que je vais penser, ce que je vais ressentir émotionnellement et les sensations physiques que je vais avoir, ça nous offre plein de perspectives et j'ai envie de dire que on peut prendre le sujet par différents bouts. On peut commencer déjà par le corps. Le corps, c'est un messager, c'est-à-dire que les sensations que l'on va ressentir vont nous donner des indications sur notre état émotionnel et sur notre état mental. Notre corps va nous parler, par exemple, parfois du stress, ça va être des sensations physiques, le bonheur, ça va être des sensations physiques, etc. Les sensations physiques, elles sont catégorisables, on peut les qualifier un peu à l'infini selon les individus, mais c'est une porte d'entrée assez tangible pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de faire de l'introspection, d'aller regarder à l'intérieur de soi. En revanche, on a tous l'habitude, sauf des maladies en lien avec l'absence de douleur, mais on a plus ou moins l'habitude de ressentir des choses au niveau du corps. Donc c'est une bonne porte d'entrée de conscience de soi, d'introspection finalement, d'interroger son corps, d'interroger ses sensations physiques et d'aller les qualifier. Et ça, c'est très personnel, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent ressentir une même émotion à des endroits différents. Le stress, par exemple, il y a des personnes, ça va être au niveau du ventre, d'autres, ça va être au niveau de la tête, il y en a d'autres, ça va être dans les jambes, qui vont être fébriles, etc. Idem pour le bonheur. Le bonheur, ça va être très différent, il y en a, ça va être dans le visage, dans les yeux, il y en a d'autres, ça va être dans le bassin, il y en a, ça va être dans le cœur, etc., ou dans les bras. qui est intéressant de voir aussi, c'est que sans faire de grandes généralités, généralement, les émotions agréables, on va avoir des sensations d'ouverture, de légèreté. Ça s'ouvre, c'est vraiment des émotions qui provoquent dans le corps de l'ouverture. On a la sensation qu'on est ouvert, qu'on a de l'espace. Il y a souvent, moi, des clients en coaching qui me disent « Ah, là, je respire !» Et en fait, ça veut aussi dire que quand on respire, plus amplement, on crée de l'espace en soi. Il y a quelque chose qui s'ouvre dans la cage thoracique, dans le ventre, dans la respiration profonde. C'est intéressant aussi de dire ça parce que la respiration est aussi une porte d'entrée excellente et une porte de maîtrise de notre état par le corps. En allongeant les inspires, en allongeant les expires, en pratiquant au moins 5 respirations profondes, on commence à doper un petit peu les messages chimiques à l'intérieur du corps. Et du coup, ça va influencer la manière dont on va se sentir émotionnellement, mais aussi la manière dont on va réfléchir. Quand on convoque des sensations de calme dans le corps, à travers le sport, à travers des arts comme la danse, etc., à travers la respiration, la méditation, ça influence la manière dont on va penser. C'est un peu finalement comme si on mettait un carburant qui est différent. Voilà. On peut dire aussi, donc pour les émotions agréables, les états mentaux et émotionnels agréables, que c'est des sensations d'ouverture, de légèreté, de manière générale, même si on peut pas dire que c'est une règle pour tous. On peut aussi dire que de manière générale, les émotions désagréables, les pensées, on va dire négatives, en tout cas les pensées qui provoquent chez nous des émotions désagréables, des peurs, de la frustration, de la colère, etc., vont plutôt convoquer des sensations de resserrement, de recroquevillement et un peu de dureté, voire de lourdeur. C'est-à-dire que voilà, le bonheur et en gros les émotions agréables, on est plutôt sur la légèreté, l'ouverture. Le reste, on va plutôt être de manière générale, encore une fois, sur du resserrement. Donc, pour certains individus, ça va se voir dans les comportements avec des gens qui se renferment. Pour d'autres individus, ça va être des gens, dans ce resserrement, ça va être de la rigidité, voire de l'agressivité. En tout cas, ça va être quelque chose de plus rigide. Donc c'est intéressant d'aller interroger le corps, puisque c'est un messager et il va nous donner beaucoup, beaucoup d'indications sur notre état actuel, dans l'instant présent. Alors, la première chose, et j'avais fait un épisode là-dessus, hein, c'est d'accepter. On n'est pas là pour chercher à refuser, modifier, dire que on ne doit pas se sentir comme ça. Il n'y a pas de règle. C'est tout à fait naturel dans la vie d'avoir des émotions, des sensations, et parfois agréables et parfois désagréables. D'ailleurs, comme le froid, le chaud, l'agréable existe grâce au désagréable et le désagréable existe parce que le agréable existe. Donc on est vraiment dans un monde de polarité, de nuances, et si un jeu de cartes a plusieurs faces, une pièce aussi, bah c'est la même chose. Voilà, pour les émotions et les sensations. Maintenant, ce qui est intéressant de dire, une fois qu'on a interrogé, voilà, qu'on a vu qu'on pouvait entrer par la porte du corps pour mieux se connaître, pour s'introspecter dans l'instant, comprendre notre état du moment, et par la respiration pour commencer à induire une forme de transformation, on peut aussi parler des pensées et du mental. De manière générale, même si les portes d'entrée sont multiples, au niveau du corps, des émotions et du mental, de manière générale, il y a beaucoup de choses qui naissent d'abord dans notre esprit. Tout comme le monde que l'on expérimente autour, là, la chaise sur laquelle je suis assise, par exemple, quand j'enregistre ce podcast, elle est d'abord née dans un esprit humain. Quelqu'un, un jour, a pensé à une chaise. Et comme les pensées humaines que l'on cultive, plus on est à les utiliser, plus elles se propagent. Aujourd'hui, on est beaucoup à utiliser des chaises. Si on est beaucoup à utiliser des pensées de colère, par exemple, eh bien, il y a de grandes chances que petit à petit, de cause à effet, ça se propage. Puisque si je balance ma colère à quelqu'un, voilà, qui est pas spécialement dans la gestion de soi, sans parler d'un quelqu'un qui fait du dev perso, hein. Mais quelqu'un, voilà, qui a pas encore peut-être cette maturité de se dire, ok, ça c'est la colère de l'autre, moi je développe ce que je veux, et ben en fait la colère, elle va contaminer tout le monde. C'est pareil à l'échelle individuelle. En fait, on est dans un monde de micro et de macrocosme. Nous, on est un être humain qui est dans un pays, dans le monde, dans l'univers. Et notre corps humain est aussi composé de plein de choses. Donc, il y a les émotions, le corps, le mental, mais c'est composé de tissus, d'os, d'organes qui sont composés eux-mêmes, tout ça, de cellules, d'atomes, de chaînes d'ADN, de molécules, bref. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que un élément est toujours partie de quelque chose de plus grand et est toujours composé de quelque chose de plus petit qui le compose. C'est la même chose pour le corps, les émotions, le mental. Donc, on se prend pas la tête avec ça puisque je sais que je peux avoir tendance à complexifier un peu les choses, mais les pensées, elles vont avoir cet effet cascade sur comment on va se ressentir émotionnellement et les émotions vont avoir une cascade sur comment je vais me sentir dans mon corps. Donc c'est aussi intéressant d'entrer dans la salle de cinéma de son esprit et d'aller observer ce qui se passe dans les pensées. De prendre un peu de recul, à la fois mettre son masque et son tuba et plonger à l'intérieur de soi, notamment au niveau des pensées et au niveau des émotions, et à la fois prendre la montgolfière pour s'élever au-dessus de soi, observer ses pensées, ses émotions, ses sensations. Et pour les pensées, c'est vraiment cette image de cinéma qui est intéressante et qu'on utilise beaucoup en coaching, en PNL ou en hypnose, qui permet de prendre de la distance. On peut être dans l'écran, on peut aussi s'asseoir sur le fauteuil, ou bien on peut carrément aller dans la salle du projectionniste et se voir nous-mêmes en train de regarder nos pensées. Ça permet de prendre de la distance, ça permet aussi de reconnaître l'aspect illusoire, l'aspect fiction de nos pensées, qui ne sont en fait que des productions de l'esprit, qui à la fois créent notre réalité, on a l'impression que c'est réel, hein, ce qu'on imagine, ce qu'il y a dans notre tête, on le vit, mais en même temps, ça n'existe pas vraiment à part dans nos pensées, qui elles-mêmes n'ont pas d'existence propre en termes de matière. Et ça n'a pas une forme, ça n'a pas un poids, ça n'a pas une densité de la matière. C'est illusoire. Mais en même temps, c'est là, et c'est pas là. Donc c'est intéressant de voir, d'aller observer ses pensées, de réfléchir à ce que c'est qu'une pensée, et puis d'observer. De prendre conscience que le mental est en train de raconter des histoires et qu'il peut y avoir des super films, des trucs à l'eau de rose dans notre esprit. Et puis des fois, il y a aussi des films d'horreur. Ça ne veut pas dire qu'on est un détraqué, ça ne veut pas dire que on a souhaité penser ce qu'on pense. Ça veut juste dire que bah voilà, il y a peut-être un peu de souffrance, il y a peut-être un peu de masochisme, d'accords conclus qui font que on est amené à se faire un peu de mal, à convoquer, à fabriquer des choses dans notre esprit qui ne nous rendent pas service, voire parfois qui nous font souffrir. Donc voilà, c'est intéressant d'aller voir ça, puisque nos pensées vont directement, un peu comme quand on regarde un film, finalement, cette image, elle parle bien, on ressent des émotions, c'est la même chose pour les pensées, on va ressentir des émotions en fonction de ce qui est projeté dans notre esprit. Donc, on comprend bien que l'apport du corps influence l'état émotionnel et nos pensées, et l'apport de nos pensées influence notre état émotionnel et notre corps. Maintenant, intéressons-nous à nos émotions. Les émotions, c'est un peu plus difficile, en tout cas, de ce que je sais, moi, avec mes outils, d'aller travailler directement sur l'émotionnel pour influencer le corps ou l'esprit. Puisque quand on va travailler sur l'émotionnel, que ça soit dans l'art, dans le théâtre, dans la peinture, dans la danse, ou dans une démarche plus intellectualisée, comme la réflexion, la méditation, l'étude de certains sujets, notamment de développement personnel ou de psychologie, etc. On passe toujours, soit vous le voyez dans l'art, par le corps, les perceptions, soit par le mental, la réflexion. Donc, on comprend bien que de manière générale, même si je veux pas dire de bêtises aux experts qui nous écoutent, l'émotion dépend toujours plus ou moins de nos pensées, de notre mental et de notre corps. Néanmoins, les émotions sont aussi une indication sur notre structure interne, ce qui est important pour nous, d'un point de vue de nos valeurs, de nos besoins, de ce que l'on croit juste ou pas juste, donc quand on parle de valeur aussi, de ce qui est important pour nous, de ce que l'on souhaite vivre et ne pas vivre, de ce qui est permis et de ce qui est des limites. Donc les émotions vont vraiment nous parler de nos besoins. Derrière chaque émotion, il y a un besoin, Émotion agréable, le besoin est comblé. Émotion désagréable dans le corps, c'est un besoin qui s'exprime et qui cherche à être respecté, comblé. Donc ces émotions vont être vraiment un point de contact direct avec qui l'on est, à différents niveaux, autant au niveau de la personnalité qu'au niveau de notre essence. Il y en a qui vont dire que de notre âme, il y en a qui vont dire de qui tu es, etc. Bref, mais en tout cas au niveau de notre structure profonde. Donc c'est intéressant aussi d'aller interroger ces émotions. Et souvent, là, la porte d'entrée que nous offrent les émotions pour influencer l'état corporel et l'état mental, ça va être justement de les accepter et de les écouter. Lorsqu'on se met à dialoguer avec nos émotions, lorsqu'on arrête de les réfuter, de les mettre à la porte, de pas les accepter parce que c'est pas agréable, souvent, c'est souvent dans ce cas-là qu'on réfute et qu'on met à la porte. Lorsqu'on arrête de faire ça, il y a déjà de l'apaisement dans le corps, déjà de l'apaisement dans le mental. Parce qu'il y a de la relativité. Quand on accepte de regarder l'objet lui-même et pas son ombre, ça vaut pour les peurs, mais ça vaut aussi pour les émotions, on se rend compte que l'ombre, qui était peut-être un gros lion, c'est en fait un petit poussin qui était éclairé d'une manière à ce que ça fasse peur et qu'on n'ait pas envie de l'accueillir. Donc une fois qu'on voit les émotions comme un petit poussin et comme des messages, des besoins qui s'expriment, en fait c'est une porte d'entrée parce que ça va amener de l'apaisement mental et corporel. Mais là encore, vous voyez, il y a une réflexion dans l'écoute de l'émotion. Voilà ce que j'avais envie de dire. Alors j'espère que ça paraît pas trop en surface et en même temps on peut pas dire des choses super précises et donner des exemples à tire-larigot puisque tout ça, c'est une règle générale, mais qui va s'observer de manière très personnelle, selon les individus. En coaching, on travaille beaucoup avec les comportements, les pensées, les émotions, pour amener la personne, le développant, à prendre du recul, à comprendre que quand il se sent comme ça, il pense comme ça ou il agit comme ça, et vice-versa dans tous les sens. Mais à chaque fois, c'est très personnel. Donc, je vous invite vraiment à explorer à votre manière cette interdépendance de votre corps, de votre mental et de vos émotions. La règle qu'on peut dire, c'est la règle générale, c'est la vigilance, la pleine conscience. Aller cultiver au quotidien des petits moments où on va aller observer ses pensées, ses sensations physiques, ses émotions, où on va un peu, comme on le fait avec un ami qu'on aime, on va dire, voilà, bah, comment tu vas ? Comment je vais, là maintenant, comment je me sens, dans le corps, dans la tête et dans les émotions, dans le cœur. Et ça offre une formidable prise de recul, mais c'est presque une hygiène, j'ai envie de dire, une hygiène personnelle. On le fait tous inconsciemment, mais si on le souhaite, on peut aussi le faire plus consciemment et l'inclure. Ça peut prendre une seule minute dans notre quotidien d'aller observer le corps, le mental et les émotions. La semaine prochaine, à la suite de cet épisode, je vous ferai un petit exercice scan corps-cœur-tête, justement, qui est une habitude que j'utilise beaucoup en formation ou dans les coachings. Un petit exercice tout simple de pleine conscience que chacun peut prendre à sa manière et qui prend pas forcément beaucoup de temps pour aller justement prendre du recul, être conscient de son état corporel, mental, émotionnel. Voilà, écoutez, j'espère que ce podcast vous a plu. Si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas à réserver votre séance exploratoire pour le programme de coaching Conscience Lumineuse, qui est donc un programme individuel, en présentiel, en tout cas, on a les séances en one-to-one, en visio. La première séance est gratuite, je vous pose une série de questions, en fait, et ça vous permet déjà de prendre du recul, de faire le point sur votre situation, à tout point de vue, et sur là où vous aimeriez aller. Commencer à définir en fait votre destination. C'est sans engagement, donc après ça, vous pouvez tout à fait arrêter, ou bien vous pouvez réfléchir et vous décider de vous lancer dans le programme Conscience Lumineuse, qui est un programme de 16 séances, donc c'est un programme de suivi sur 4 à 5 mois, hein, c'est assez long, et c'est pour les personnes qui ont vraiment envie d'aller explorer leurs envies, leurs freins, leurs ressources, à travers différentes techniques, comme le coaching, la PNL, mais aussi en fonction des besoins, la sophrologie, l'hypnose et la méditation. Voilà, et puis dans une semaine, il y aura Sophro-Soi, le premier programme de Sophro-Soi qui sera Sophro-Serenity, 11 séances de sophrologie. Là, il y aura du mouvement, de la respiration, de l'intention, de la méditation sur séance. Et l'objectif est de mieux gérer son stress au quotidien et de générer de la détente soi-même au quotidien. Voilà, donc ça sera aussi un programme à prix tout doux. Il y aura une offre de lancement la première semaine. Donc, je vous invite à aller explorer ce programme-là sur le site si jamais ça vous intéresse, cette question de l'interdépendance du corps, du mental et de l'émotionnel. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Bye bye! Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. D'ailleurs, s'il vous plaît, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le soutenir avec une jolie note et un commentaire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les accompagnements, que ce soit dans une démarche personnelle ou professionnelle, je vous invite à me contacter pour un entretien gratuit et sans engagement en cliquant sur le lien dans la description de ce podcast. À tout bientôt !